Alors j'aimerais qu'on prenne ensemble l'Épître aux Hébreux ce matin. On va prendre Hébreux chapitre 2 et versets 10 à 11. Versets 10 à 18. Hébreux 2, versets 10 à 18. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces chants que nous venons de chanter. Merci, Père, de ce bonheur d'être à toi, de t'adorer, de t'élever dans nos cœurs. Et Père, merci de me donner ta grâce et bénir ces instants autour de ta parole. Ta parole, c'est toi, Seigneur, c'est ta voix, c'est ta vérité, la vérité. Et Père, nous prions que ta voix nous enseigne, nous exhorte, nous fasse du bien, que la parole de Dieu nous stimule et nous rapproche de ta personne. Père, nous sommes reconnaissants d'être avec nous, là où deux ou trois, tu es au milieu d'eux. Et merci d'être avec nous ce matin et de nous garder, nous cacher en toi et nous faire du bien en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dans tout ce passage-là, quand on regarde un peu tout ce passage, ce qui ressort, c'est le fait que Jésus a été rendu semblable à ses frères. Il est dit « semblable à ses frères en toutes choses », verset 17. Donc il a vécu une vie semblable à la nôtre. Et on dit souvent que la plus grande preuve d'amour de Jésus-Christ, c'est le fait qu'il ait donné sa vie à la croix. C'est une évidence, hein, puisqu'il est dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Donc c'est une réalité. Mais donner sa vie, c'est pas uniquement mourir pour une personne. On donne sa vie quand on fait le don de sa vie. Par exemple, une mère fait le don de sa vie pour ses enfants sans cesse, hein. Donc il y a un sacrifice, hein, et c'est, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc donner sa vie, c'est pas simplement mourir pour une personne. Et Jésus nous prouve son amour non seulement par sa mort, mais aussi par son incarnation et par sa vie entière, en fait, la vie qu'il a vécue sur cette terre. C'est l'ensemble de sa vie, finalement, qui est un sacrifice, qui est le don de sa vie. Et il faut réaliser que Dieu était, Jésus-Christ, égal à son Père dans l'éternité, créateur de toutes choses, et il s'est dépouillé lui-même, donc de sa divinité, de sa morphée de Dieu, il est dit, hein, pour descendre et s'incarner. Et le sacrifice, ben, commence là, déjà, dès l'incarnation. Et ensuite, il a été rendu semblable à nous en toutes choses, étant dans une chair identique, ça veut dire limitée, hein, quand on est dans la chair, on est limité, nécessairement. Ça veut dire qu'on vit la fatigue, qu'on vit des choses qui sont inhérentes à la vie dans le corps, prisonnier du corps, d'une certaine manière. Ben, lui qui était Dieu, il est descendu et il s'est rendu en quelque sorte limité et prisonnier dans un corps humain, souffrant également, comme nous souffrons. Et ça a duré pendant 30 années. Et Jésus a été rendu semblable à nous, semblable à ses frères. Mais pourquoi? Et notre texte répond à cette question ou à ces questions. Pourquoi Jésus a participé au sang et à la chair? Pourquoi il a pris un corps comme le nôtre? Ça commence versets 14 et 15 que l'on peut lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et la première chose, eh bien, il s'est incarné, bien sûr, pour venir mourir pour nos péchés. C'est ce que dit ce passage, c'est la réponse la plus évidente. Et quand vous faites des recherches un petit peu, vous voyez que les gens, la peur de la mort, elle existe toujours. Il y a des gens qui ils sont très effrayés face à la mort, parce que la mort, ben, c'est l'inconnu, c'est le vide, c'est voilà, l'extinction de la lumière, c'est les ténèbres. C'est aussi la crainte d'un jugement. Et la mort, une forme de mort, c'est ça. Assurément, c'est ça. Et depuis que la mort est entrée dans le monde, il y a toujours eu cette crainte vis-à-vis de l'au-delà, en fait, vis-à-vis de l'inconnu. Alors maintenant, depuis 2 siècles, on rationalise davantage. On essaye d'expliquer la mort, on essaye de la démystifier. On fait un peu de psychologie pour... petit à petit enlever cette crainte de la mort, libérer de cette peur. Non pas forcément en apportant une compréhension juste et la solution à la mort, mais plutôt en la niant ou en la tournant en dérision ou en invitant à l'ignorer ou en relativisant la mort et voilà, petit à petit en diminuant la réalité de la mort. Où on nous dit qu'il faut vivre, mais pas se soucier de la mort, que de toute façon, il n'y a rien après. Et donc, s'il n'y a rien, ben, on n'est plus. Et si on n'est plus, ben, on ne ressent rien, on n'est pas triste, voilà, il n'y a plus rien, c'est terminé. Donc, aucune raison d'y réfléchir ou de se tourmenter. Mais Dieu explique comment être délivré de la mort et de la crainte de la mort. Jésus, il a participé au sang et à la chair, donc à un corps d'homme, afin que par la mort, par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce qui nous conduit à la mort? Qu'est-ce qui nous amène à la mort? Si vous demandez à un scientifique, il dira ben, c'est le vieillissement des cellules. Si vous demandez à un médecin, il dira le cancer ou une maladie ou quelque chose de ce genre. Si vous demandez à un religieux, il vous dira le fait de ne pas se conformer aux règles que Dieu a établies. Ça va être ça les réponses. Mais que dit la Bible? Qu'est-ce qui conduit à la mort, en fait? C'est le péché. C'est le péché qui nous conduit à la mort. La Bible est très claire sur cela. À l'origine, il a été dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, ou tu mourras d'une manière certaine. C'est sûr, tu vas mourir. Si tu désobéis, tu vas mourir, tu connaîtras la mort. Et c'est ainsi que la mort est rentrée dans le monde par la désobéissance. Donc à la base, c'est le péché qui fait que nous mourons. S'il n'y avait pas eu péché, eh bien il n'y aurait pas eu mort. Dieu l'a dit en d'autres termes, il l'a dit de manière simple, il a dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est très simple à comprendre. Le péché entraîne un salaire qui est la mort. Alors Alfred Kuhn a... Dans sa version, où il a pris toutes les versions ensemble, il a dit, c'est intéressant, la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort. La solde payée à ses esclaves, du péché payé à ses esclaves est la mort. Ou le salaire que verse le péché, c'est la mort. Donc si je pêche, je vais mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, est-il écrit. Et celui qui a péché à l'origine, celui qui a introduit le péché dans le cœur des premiers hommes, eh bien c'est le diable. C'est lui qui a péché au commencement. C'est le premier pécheur de tout l'univers, donc c'est Lucifer à qui on a donné plus tard le nom de diable. C'est lui qui s'est rebellé à l'origine contre son créateur et qui introduit le péché dans le monde, la rébellion. Et le diable sait bien que depuis toujours, le péché et la désobéissance... ça entraîne obligatoirement la séparation du Dieu qui est saint, du Créateur. Péché, désobéissance, ça veut dire, eh bien, je serai séparé de lui. Et même si le diable est faible devant le Créateur, devant Dieu, même s'il se sait en sursis, s'il sait qu'il va être jugé bientôt, eh bien, ça n'empêche pas le fait qu'il a une puissance. C'est la puissance de la mort. Il a cette puissance. Et il y a un levier, c'est le péché. Dès que je pousse les hommes à pécher, ils pêchent, ils se condamnent eux-mêmes. Et le résultat, le salaire, ce sera la mort. Et c'est une spirale, comme une vis sans fin. Un homme naît, il pêche, il devient coupable, et sa sentence, c'est la mort. Et c'est la raison d'abord majeure pour laquelle Jésus a participé au sang et à la chair. C'était pour dépouiller le diable de cette puissance de la mort. En Colossiens 2, verset 15, il est écrit, Colossiens 2, verset 15. Il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et l'ensemble de ce verset et les termes qui sont employés, c'est l'histoire d'un général romain qui arrive victorieux d'un combat, d'une guerre, et derrière lui, il est sur son char, hein, il entre dans la ville, c'est le triomphe, hein, et derrière lui, eh bien, il y a ses ennemis qui sont enchaînés, qui sont humiliés, qui sont vaincus, tête basse, hein, et voilà, il rentre en triomphateur. Eh bien, c'est un peu l'idée qu'il y a dans ce verset. Le diable et ses démons ont été terrassés à la crucifixion. Parce que dans cet instant-là, oui.
Ces versets, ça se chante, vous connaissez ?
Non.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix, en triomphant de par la croix.
Merci. Et donc le diable et ses démons ont été terrassés lors de la crucifixion, parce que dans cet instant-là, Jésus prenait la condamnation, le jugement du coupable sur lui-même. Alors, eh bien, ça y est, la mort était vaincue. Jésus a été un peu comme un paratonnerre. La foudre devait tomber, frapper chaque pécheur, et la foudre est tombée sur lui. Et il a payé pour nos péchés. Donc il a reçu sur lui notre jugement. Alors oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais la suite dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a donné la vie éternelle. Jésus est mort pour nous. C'est pour ça que Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ensuite, pourquoi Jésus a été fait semblable à nous? C'est la deuxième chose. Pourquoi il a été fait semblable à nous? Parce que il est descendu dans une chair humaine et il s'est mis à notre niveau. Il est descendu pour nous comprendre finalement, pour être comme nous et pour nous comprendre. Regardez versets 16 et 18, Hébreux 2, versets 16 et 18. Il dit ici, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et donc il fallait qu'il prenne la condition humaine, c'était nécessaire pour qu'il nous comprenne, pour qu'il sache exactement de quoi est fait notre quotidien. Et du coup, ça rend Jésus très très proche. Ça nous rend Dieu très très proche. Si vous regardez un peu dans le monde, quelle que soit la religion, Dieu est lointain. Il est très lointain. Il est un peu dans une sphère inaccessible. Soit il y a une très grande distance entre lui et nous, il n'y a pas de contact, et on nous demande une soumission aveugle à des règles. Voilà, soumettez-vous, soumission. Soit on va mettre entre vous et lui toutes sortes de médiateurs, plein de personnes, de saints, voilà, des médiateurs ou des médiatrices, et on vous dit, mais c'est par eux que finalement on accède mieux à Dieu, c'est plus facile. Ou bien quand vous devez, eh bien vous avez quelque chose sur le cœur, eh bien faut passer par un homme. C'est par lui que eh bien vous aurez accès à Dieu. Et Dieu est lointain. Soit Dieu c'est un principe ou une pensée abstraite, hein, et on vous dit plutôt mais il faut chercher en soi, la solution se trouve en vous. Et c'est la même chose. Hein. Dieu reste lointain. Soit on vous dit mais Dieu n'existe pas. Comme ça c'est réglé. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est descendu sur terre et qui s'est approché de nous. Il a vécu au milieu de nous. Dieu est descendu vivre au milieu de nous. Et il a vécu ce que nous vivons. Il a connu les mêmes souffrances. Il a connu les mêmes tentations. C'est incroyable de se dire que Jésus est descendu et qu'il a vécu les difficultés de la vie. C'est Dieu, c'est le Créateur. Il accepte de descendre et de vivre dans sa chair les souffrances et les difficultés de la vie. Et sans jamais pécher. Sans jamais pécher. Il a vécu toutes les limitations, tous nos besoins légitimes, toutes les tentations qui nous touchent. Dieu dit un petit peu plus loin dans Hébreux, je vous le lis, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre de péché. » En toute chose. Il a été tenté exactement comme vous en toute chose. C'est quelque chose. Donc ça inclut forcément mes tentations, vos tentations. Ça les inclut. Dieu sait ce que c'est que d'être un homme. Il sait ce que c'est que d'avoir des luttes intérieures. D'avoir des désirs qu'on a, voilà, on peut pas assouvir, remplir. Il sait. Le diable lui a parlé, il lui a dit, mais change tes pierres en pain. Mais au travers de cela, il était en train de parler d'un besoin de satisfaire la chair humaine, de satisfaire un besoin qui était légitime. Et Jésus a été tenté comme nous en toute chose. Ça veut dire que, eh ben, même si la Bible ne le dit pas, en toute chose, il a connu aussi ce que c'est que d'avoir un attrait du sexe opposé. Il l'a connu. Il a vécu puisqu'il était un homme. Alors, ils en doutent. Moi, j'en suis convaincu.
Il était Dieu.
Mais il a vécu nos tentations en toute chose. Et s'il te plaît, Ils, c'est pas le moment de dire ça. Tu devrais te taire. Excuse-moi, je te le dis. Et si tu as quelque chose où tu n'es pas d'accord, on peut en parler à la fin du culte. Mais ce n'est pas le moment. En toute chose. Ça veut dire que si moi, je suis tenté, Jésus me comprend. Et si Jésus n'avait pas vécu cette tentation, alors il ne pourrait pas me comprendre. Il ne saurait pas ce que c'est. Mais il a été tenté en toute chose. La totalité. Mais lui n'est pas tombé. Il n'est jamais tombé. Et la tentation n'est pas péché. Être tenté, ce n'est pas un péché. Jésus n'a jamais péché. Jamais. Mais en tout cas, ça nous enseigne aussi. Hein, quand on se sent seul, mais il faut se dire, mais Jésus était seul. C'est le célibataire divin, parfait. Donc, il a des choses à m'enseigner. Il est mon modèle. Mais les tentations, c'est aussi plus subtil, mais tout aussi réel. Par exemple, la tentation d'abandonner, la tentation de renoncer, de plus vouloir lutter, de plus vouloir combattre. C'était difficile pour lui quand il était en Gethsémané. Pendant un instant, la pensée d'éloigner la coupe qu'il devait boire, elle a fait jour dans son cœur, elle est devenue pressante. Dieu sait ce que c'est que d'avoir envie de renoncer à faire ce qui est bien, d'avoir envie de jeter l'éponge. Il sait ce que c'est. Et là encore, Jésus a invoqué son Père et il a fait toute la volonté de son Père. il n'a pas péché. C'était aussi la tentation de vouloir éviter la souffrance. La tentation de vouloir faire un choix qui est plus facile, moins douloureux. Qui aime souffrir? Personne n'aime souffrir. C'est normal d'avoir envie de ne pas souffrir. C'est logique. Mais Dieu sait ce que c'est aussi que d'être devant un choix douloureux et de le faire. Parce que ben, c'est ce que Dieu nous demande. Jésus l'a vécu, il nous comprend. C'est aussi la tentation de l'orgueil, de l'élévation. Dieu sait ce que c'est. Le diable ne l'a pas épargné quand il l'a titillé pour lui proposer un accès facile à la gloire. Vas-y, jette-toi en bas du temple. Les anges seront là et te recueilleront. C'était un moyen de... Le Messie! Voilà. Pas besoin de passer par la croix. Mais beaucoup plus glorieux que la croix. C'était une tentation. Jésus l'a vécu, il nous comprend. Et puis la tentation de la richesse, c'est aussi ce que a voulu bien exciter quelque part en Jésus, en lui offrant tous ses royaumes de la terre s'il l'adorait. Et on connaît toutes ces histoires, bien sûr, on a déjà vu ces histoires. Mais ça devient très concret quand on l'applique à notre vie, quand par exemple, voilà, il y a moyen de gagner plus d'argent, mais en sacrifiant beaucoup pour ma famille. Qu'est-ce que je fais? Ça arrive à des personnes. Gagner davantage, et le diable sera toujours là pour dire, mais si tu as plus d'argent, ta famille sera plus heureuse. Mais tes enfants t'auront moins aussi. Donc, c'est à peser devant le Seigneur. Et peut-être que vous vous dites que votre tentation du moment, elle n'est pas dans celle que nous venons de voir. Mais c'est forcément là, dans ces grandes choses, finalement. Parce que l'homme est faible sur ces sujets-là, que ce soit la richesse, que ce soit la gloire, que ce soit l'orgueil, que ce soit la souffrance, les plaisirs. Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. En fait, il a vécu durant sa vie bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Alors tout à l'heure, je viens de vous dire là qu'il... le fait qu'il a été tenté d'abandonner. Mais j'aimerais relever aussi qu'il a été abandonné. Jésus a été abandonné. Et parfois, l'épreuve, ce n'est pas d'avoir peur d'abandonner, mais l'épreuve, c'est de se sentir abandonné. Peut-être vous le vivez aussi, ou vous l'avez vécu, de connaître l'abandon. Jésus a connu ça. Il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est une souffrance, c'est une épreuve terrible que de se sentir rejeté, séparé, oublié. Dans le psaume 22, regardez, psaume 22, un psaume prophétique, où il nous est parlé du Fils de Dieu. Versets 1 et 2, il est dit, au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Alors c'est David qui a écrit cela, mais David qui est inspiré par Dieu, et tout le psaume 22 est en train de nous parler de la crucifixion. En fait, David, sans le savoir, il est poussé, il écrit. C'est aussi des expériences qu'il vivait dans sa vie personnelle. Hein. Il a vécu l'abandon, donc il a ressenti ses sentiments, mais il est en train d'exprimer véritablement les sentiments de Jésus-Christ. Jésus a été tenté, éprouvé, comme nous, en toutes choses. Et donc, il sait ce que c'est que l'abandon, de ressentir l'abandon. Il nous comprend. Verset 17. Verset 17, Jésus a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pourquoi encore a-t-il vécu ce que nous vivons? Pourquoi a-t-il été rendu semblable à nous? Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Alors d'abord, c'est bien d'expliquer souverain sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était donc le souverain sacrificateur et les sacrificateurs qui faisaient des sacrifices d'animaux. Donc quand ils faisaient un sacrifice, ils couvraient le péché. En fait, c'est comme s'ils le pardonnaient, mais le pardon est venu réellement après à la mort de Jésus-Christ. Mais ils couvraient en attendant le sacrifice de Jésus-Christ. Ils couvraient les péchés. C'était temporaire. C'était une image. C'était en attendant le sacrifice parfait, Jésus-Christ. Il est le sacrifice parfait. Et le Fils de Dieu est à la fois le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui présente son propre sang, le sang de son sacrifice, sa mort, et qui le présente à Dieu pour le pardon de nos péchés. Lorsque le croyant a péché, Jésus peut se présenter à son Père et dire « J'ai payé pour lui. Mon sang a été versé. Père, pardonne-lui. Pardonne-lui son péché. » Et donc Jésus prend position, il nous défend, il est notre avocat. Mais plus qu'être simplement un homme de loi qui applique froidement la loi, il est dit qu'il est miséricordieux et fidèle. Miséricordieux et fidèle. Il est compréhensif. Notre Seigneur sait quand nous sommes faibles. Il sait quand on est dans une situation difficile. Il sait aussi quand c'est le fait du diable qui provoque notre chute, ou quand c'est nous-mêmes. Et c'est pas pareil, vous savez ? C'est pas pareil. Il sait quand les circonstances ne sont pas en notre faveur. Il sait tout ça. Dieu sait. Et il nous comprend parce qu'il est passé aussi par la souffrance, parce qu'il a vécu aussi la souffrance et les tentations. Et Dieu n'est pas dans le ciel à froncer les sourcils. « Bon, alors tu vas être saint !» Non, pas du tout. Il sait ce que nous vivons. Il sait quand c'est dur. Il sait quand nous pleurons. Il sait nos déceptions profondes. Parfois, on est profondément déçus. Déçus de nous-mêmes. Il sait. Il sait aussi quand nous nous en voulons d'avoir eu telle attitude ou tel comportement, d'être tombé ici ou là. Dieu sait. Dieu nous comprend. Et il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle encore là pour nous tendre la main et nous relever. C'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Psaume 37, versets 23 et 24. Si on peut prendre ce verset. Psaume 37, versets 23 et 24. Il est dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et cette parole est pleine de consolation. Pleine de consolation. C'est beau. Dieu prend plaisir à notre voix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'a pas prévu qu'on devienne saint et parfait du jour au lendemain. Non, pas du tout. Mais il prend plaisir à s'occuper de nous et à nous voir progresser. Et il nous encourage encore, encore. Et il peut nous dire 10 000 fois, « Courage, tu vas y arriver. Courage, courage, tu vas être délivré de ce péché. Courage, tu vas traverser cette épreuve. Courage. » S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il y a une autre version, version Osterwald, qui dit, s'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Voilà, il ne sera pas entièrement abattu. Il ne va pas s'effondrer. Non, l'Éternel va lui tendre la main. Et le prendre. Déjà dans l'Ancien Testament, on trouve des versets comme celui-là qui nous rend Dieu proche. Dieu est proche. Mais ce qui nous a rendu encore plus proche, Dieu plus proche, c'est son incarnation. C'est qu'il est descendu vivre une vie comme la nôtre. Jésus nous permet d'avoir carrément une intimité avec lui. Non seulement par sa venue, il nous a ouvert le ciel, donc on a un accès à lui, on peut s'approcher de lui, mais il est descendu vers nous pour être proche avec nous et pour nous comprendre réellement. et il va être miséricordieux et fidèle pour nous accorder sa grâce, son pardon. Enfin, pourquoi Jésus a été fait semblable à nous? La troisième chose, c'est que par sa vie sur terre, Jésus est devenu l'homme parfait. D'abord, Jésus était parfait, bien sûr, dans l'éternité, c'est une évidence. Mais on peut dire qu'il est devenu un homme parfait par son incarnation, par son obéissance, par ses souffrances. Verset 10, Hébreux, verset 10, il est dit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Et bien que Jésus ait été parfait dans le ciel, et bien il a quand même appris des choses sur terre alors qu'il était un homme. Il a vécu une vie d'homme. Donc il a commencé bébé, hein. Il a commencé dans l'enfance et il a vécu ce qu'est une croissance. Et il y a un verset intéressant dans Ésaïe que vous connaissez quand il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge sera enceinte et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors on connaît tous ce verset, mais juste après il dit « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Et donc, il y a une croissance aussi, hein, en tant que bébé. Jésus n'est pas sorti du sein maternel en sachant parler et puis en parlant à sa mère. Il a appris le langage. Il a appris, en fait. Il a appris toutes choses. La différence, c'est que lui, son père et sa mère lui disaient quelque chose, il lui disait une seule fois. C'est tout. Et il n'avait pas besoin de l'entendre 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois. Tout de suite. Tout de suite. Il n'a jamais péché. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Hébreux 5 et verset 7. Il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et dans notre texte, nous lisons qu'il a été élevé à la perfection par les souffrances. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on comprend que les souffrances étaient un passage obligé. C'était obligé. Dans sa vie d'homme, il fallait qu'il parvienne à cette perfection, à cet accomplissement, en fait. Hein, et cet accomplissement ne pouvait passer que par la souffrance. Et ça, c'est une première chose à comprendre. C'est que si le Fils de Dieu a vécu une part de souffrance, c'était nécessaire pour arriver à la perfection en tant qu'homme, en tant qu'homme. Dieu et la vie qu'il permet en chacun de nous nous montrent que non, nous aussi, nous ne pouvons pas passer, ne pas passer par la souffrance. Si lui est passé par la souffrance, eh bien nous aussi, on va passer par la souffrance. C'est certain. On ne peut pas s'en passer. Et dans la vie, Dieu permet pour chacun des périodes de souffrance, hein, des périodes d'épreuves, de difficultés. Et ce n'est pas pour nous anéantir, mais c'est au contraire pour nous pousser vers la perfection et nous amener à être plus parfaits. Alors c'est ce que va dire par exemple l'apôtre Pierre quand il dit qu'il nous faut supporter la souffrance en faisant ce qui est bien. Il faut l'accepter parce que ça nous mène vers le meilleur. Jacques dit que l'épreuve produit en nous la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et donc, l'épreuve et la souffrance nous mènent vers une perfection, vers la perfection. Bien sûr, nous ne l'atteindrons pas ici-bas, mais nous tendons, nous avançons vers la perfection. Et si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, s'il a été élevé à la perfection par elles, c'est aussi vrai pour nous. Mais notre verset dit, Hébreux 2:10, il dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Et là, dans ce verset, on voit que Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est pour ça qu'il a permis, que Dieu a permis qu'il descende et qu'il s'incarne. C'est parce qu'il voulait nous conduire à la gloire. C'était ça qui était important au ciel. Et si on est en chemin, on avance petit à petit vers la perfection en tant qu'homme, Jésus, lui, a été parfait ici-bas. C'est l'homme parfait. Il est l'homme parfait. Ayant vécu une vie parfaite, ayant vécu une vie sans péché, dans son obéissance, dans tout ce qu'il a vécu, dans tous les choix qu'il a fait. Et quand il a été crucifié, eh bien, c'était l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, l'agneau parfait. Pourquoi il s'est incarné et il a vécu une vie parfaite comme cela ? Pour conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est-à-dire pour conduire à la perfection et conduire au salut et à la vie éternelle beaucoup de fils et de filles, bien sûr. Hein. Et la perfection en tant qu'être humain, il faut comprendre que Jésus l'a acquise pour nous. Sa vie parfaite, c'était pour nous. Il est passé par tout cela, il a vécu des souffrances dans lesquelles il a obéi. Et tout ça, eh bien, ça l'a conduit à la perfection en tant qu'homme pour nous donner cette vie parfaite. Si Dieu nous disait seulement « Sois saint, ne pêche plus, fais le bien, toujours », on serait plongé dans le désespoir. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. On essaye, on chute. On essaye, on retombe. Et on n'y arrive pas. C'est impossible. Au-delà de notre portée. Pourquoi ? Parce qu'il y a le péché en nous, il y a la mauvaise nature. Il y a cette chair en nous qui nous tire vers le bas. Mais avant de nous dire « Sois saint, ne pêche plus, fais toujours le bien », il nous dit « Crois au Seigneur Jésus. Accepte-le dans ton cœur. Reçois le Saint-Esprit. Sois sauvé. » D'abord, il nous dit ça. Et après, il nous dit « Allez, sois saint. Marche avec moi. Vis par moi, parce que c'est possible. » Si Dieu prend notre péché pour le mettre sur Jésus-Christ, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous nous repentons, eh bien, il y a un transfert. Il prend la sainteté, la justice, la vie parfaite de Jésus et il nous la donne. Et cette vie parfaite, elle est en nous. Jésus est en nous. Il est dit, hein, Paul dit que Christ soit formé en vous. Il a encore dit que Dieu nous œuvre pour nous conduire à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Voilà. Que Christ vive en vous, que sa vie parfaite soit là. Et donc, de là l'importance de croire, de recevoir le Fils, de recevoir le Saint-Esprit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si Jésus, sa vie parfaite est en moi, alors j'ai la vie éternelle. Et sa vie, lorsque je le laisse vivre, fait que j'ai une vie aussi qui est imprégnée de sa perfection. Je serai toujours un pécheur, je tomberai encore, mais sa vie est là. Sa vie est en moi. Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et donc, il a élevé à la perfection par les souffrances, parce que nous aussi, nous souffrons. Il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il est le prince de notre salut. Ça veut dire qu'il est l'initiateur, il est l'auteur de notre salut. Sans lui, pas de salut possible. Nul ne vient au Père que par lui, que par moi, il dit. Maintenant, le terme prince, c'est aussi le chef, c'est le conducteur, c'est le guide. En fait, c'est celui qui nous conduit, c'est le chef qui marche à la tête pour nous conduire dans la bonne direction. Jésus est le seul qui mène jusqu'au salut. Lui connaît le chemin. Et si on accepte de le suivre, de croire en lui, alors bien, il va nous conduire au ciel. Il est le bon berger et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie et il les mène vers des verts pâturages. Et j'aimerais conclure avec le verset 10, le début du verset 10, où il dit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses » Il convenait en effet que celui pour qui et par qui, ça va toujours plus, hein. Pour qui, par qui, c'est facile à retenir. Pour qui, par qui sont toutes choses. Nous existons pour lui et par lui. C'est les deux. Pour lui et par lui. Nous sommes là, nous respirons, nous parlons, nous regardons pour lui, par lui. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, nos premiers parents, Adam et Ève, ont voulu s'affranchir de cette vérité, être libérés de ça. Ils n'ont pas voulu vivre pour Dieu et par Dieu. Ils n'ont plus voulu. Et le résultat, c'est le péché. C'est la ruine. C'est le désastre. C'est la mort. Mais Jésus est venu renverser la malédiction de la désobéissance. Il est venu vivre une vie pour Dieu et par Dieu entièrement. En tout. Tout le temps. Pour Dieu, par Dieu. Et c'est ce à quoi il nous invite aujourd'hui. C'est ce qu'il veut nous donner, en fait. Il nous donne sa vie. Il dit, mais laisse-moi vivre en toi et tu vas vivre pour Dieu et par Dieu. Simplement crois, repens-toi, accepte-le, dis, Seigneur, sauve-moi. Je rentre et je vis en toi. Il n'y a pas d'existence en dehors de Dieu. La finalité, vous savez, c'est la mort. Hein. Dieu a mis un timing et un jour, ça s'arrête. Voilà. On a ce temps-là pour comprendre et réaliser que nous venons de lui et un jour, eh bien, il reprendra notre âme. Alors, c'est maintenant qu'il faut comprendre et dire « Je reviens à toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, par Jésus-Christ. » Pourquoi ? Parce que il est dit dans ce même passage, tous sont issus d'un seul. Nous sommes tous issus de Dieu, du Créateur. On va s'incliner dans la prière. Si vous voulez le prier, vous pouvez le faire librement. Je demanderai à un homme de bien vouloir commencer.